La liberté, ça se donne pas, ça s'arrache. Nous disons à bas l'État colonial français. À bas le colonialisme français. À bas l'impérialisme français.
Décolonisons les ondes.
Résistance
et lutte de libération.
Une radiophonique en direct sur Radio Saint-Ferréol
94.2.
Des prises de parole,
des lectures,
des interviews,
des poèmes
et de la musique.
À partir de 19h jusque tard dans la nuit.
Et en streaming sur le site radiosaintfé.com.
Vous allez écouter un épisode de l'événement radiophonique exceptionnel Décolonisons les ondes qui a été diffusé dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026 sur Radio Saintfé. Un studio mobile, une trentaine de gens, de la nourriture et des boissons énergisantes se sont installés pour la nuit à la MJC Centre Social Nénichez de Oust-sur-Scie et ont enchaîné des lectures, des discussions, des morceaux de musique pour une nuit radiophonique décoloniale. Pour écouter le reste et des bonus surprises, rendez-vous sur radiosaintfé.com en recherchant « Décolonisons les ondes » dans l'onglet de recherche.
On est toujours en direct et on n'est pas fatigué. Et on accueille Suzanne qui va nous faire des lectures. Salut Suzanne.
Salut.
Eh bien, c'est à toi.
Merci. Alors moi, j'ai choisi de lire des extraits d'un livre de Frantz Fanon, « L'enceinte de la révolution algérienne ». Donc il a écrit ce livre en 1959. Donc Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, qui a vécu en Algérie et du coup qui s'est impliqué dans la lutte de libération algérienne et qui a du coup analysé comment la lutte décoloniale transforme la société dans son ensemble. Les relations familiales, le rapport en fait à tout. Donc je vais, ça sera en deux parties. Quelques extraits de l'introduction du livre et ensuite quelques extraits d'un chapitre sur lequel il analyse le rapport à l'objet radio. Voilà, une petite mise en abîme de notre soirée radiophonique. Donc je commence. La guerre d'Algérie entre bientôt dans sa sixième année. Personne parmi nous, comme dans le monde, ne soupçonnait en novembre 1954 qu'il faudrait se battre pendant 60 mois avant d'obtenir que le colonialisme français desserre son étreinte et donne voix au peuple algérien. Après 5 ans de lutte, aucune modification politique n'est intervenue. Les responsables français continuent de proclamer l'Algérie française. Cette guerre a mobilisé le peuple dans sa totalité. L'a sommé d'investir en bloc ses réserves et ses ressources les plus cachées. Le peuple algérien ne s'est pas donné de répit, car le colonialisme auquel il est confronté ne lui en a laissé aucun. La guerre d'Algérie, la plus hallucinante qu'un peuple ait menée pour briser l'oppression coloniale. Ses adversaires aiment affirmer que la révolution algérienne est composée de sanguinaires. Les démocrates, dont elle avait la sympathie, lui répètent, quant à eux, qu'elle a commis des erreurs. Et pourtant, qui ne comprend psychologiquement ces subites violences contre les traîtres ou les criminels de guerre? Les hommes qui ont fait la campagne au sein de la première armée française ont gardé des mois entiers le dégoût pour ces justiciers de la dernière heure qui déchargeaient leurs armes sur les collaborateurs. Ceux qui avaient fait l'île d'Elbe, la campagne d'Italie et le débarquement à Toulon étaient révoltés par ces règlements de comptes fratricides, illégaux et souvent honteusement menés. Nous n'avons cependant pas en mémoire de condamnation des maquisards pour exécution sommaire précédée de torture de civils désarmés. Le Front de Libération Nationale n'a pas craint, dans les moments où le peuple subissait les assauts les plus massifs du colonialisme, de proscrire certaines formes d'action et de rappeler constamment aux unités engagées les lois internationales de la guerre. Dans une guerre de libération, le peuple colonisé doit gagner. Mais il doit le faire proprement, sans barbarie. Le peuple européen qui torture est un peuple déchu, traître à son histoire. Mais le peuple sous-développé qui torture assure sa nature. Il fait son travail de peuple sous-développé. Le peuple sous-développé est obligé, s'il ne veut pas être moralement condamné par les nations occidentales, de pratiquer le fair-play, tandis que son adversaire s'aventure, la conscience en paix, dans la découverte illimitée de nouveaux moyens de terreur. Le peuple sous-développé doit à la fois prouver par la puissance de son combat son aptitude à se constituer en nation et par la pureté de chacun de ses gestes qu'il est, jusque dans les moindres détails, le peuple le plus transparent, le plus maître de soi. Mais tout cela est bien difficile. Non, ce n'est pas vrai que la révolution soit allée aussi loin que le colonialisme. Mais nous ne légitimons pas pour autant les réactions immédiates de nos compatriotes. Nous les comprenons, mais nous ne pouvons ni les excuser ni les rejeter. Parce que nous voulons d'une Algérie démocratique et rénovée, parce que nous croyons qu'on ne peut pas s'élever, se libérer dans un secteur et s'enfoncer dans un autre, nous condamnons, le cœur plein de détresse, ces frères qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire avec la brutalité presque physiologique que fait naître et qu'entretient une oppression séculaire. Les gens qui nous condamnent ou qui nous reprochent ces franges obscures de la Révolution ignorent le drame atroce du responsable qui doit prendre une sanction contre un patriote coupable, par exemple, d'avoir tué un traître notoire sans en avoir reçu l'ordre, ou chose plus grave, une femme, un enfant. Tout ce sang innocent qui jaillit à pleine artère sur le sol national a fait lever une nouvelle humanité, et personne ne doit ignorer ce fait. L'Algérie est virtuellement indépendante. Les Algériens se considèrent déjà souverains. La thèse qui veut que se modifient les hommes dans le même moment où ils modifient le monde n'aura jamais été aussi manifeste qu'en Algérie. Cette épreuve de force ne remodèle pas seulement la conscience que l'homme a de lui-même, l'idée qu'il se fait de ses anciens dominateurs ou du monde, enfin à sa portée. Cette lutte, à des niveaux différents, renouvelle les symboles. Elle renouvelle les mythes, les croyances, elle renouvelle l'émotivité du peuple. Nous assistons en Algérie à une remise en marche de l'homme. Nous voulons montrer dans ces pages que le colonialisme a définitivement perdu la partie en Algérie. Tandis que, de toute façon, les Algériens l'ont définitivement gagné. On verra dans ces pages les bouleversements survenus dans la conscience de l'Algérien. On verra les fissures à partir desquelles s'est remodelée la société européenne d'Algérie. On assiste en vérité à l'agonie lente, mais certaine, de la mentalité du colon. D'où cette thèse que nous retrouverons souvent. La mort du colonialisme est à la fois la mort du colonisé et mort du colonisateur. Les rapports nouveaux, ce n'est pas le remplacement d'une barbarie par une autre barbarie, d'un écrasement de l'homme par un autre écrasement de l'homme. Ce que nous, Algériens, voulons, c'est découvrir l'homme derrière le colonisateur. Cet homme, à la fois ordonnateur et victime, d'un système qu'il avait étouffé et réduit au silence. Quant à nous, nous avons depuis de longs mois réhabilité l'homme colonisé algérien. Nous avons arraché l'homme algérien à l'oppression séculaire et implacable. Nous nous sommes mis debout et nous avançons maintenant. Qui peut nous réinstaller dans la servitude ? Nous voulons une Algérie ouverte à tous, propice à tous les génies. Cela, nous le voulons et nous le ferons. Nous ne pensons pas qu'il existe quelque part une force capable de nous en empêcher.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Nuit des Coloniales en direct de la MJC Nini Chaise à Oust-sur-Sie. Et on continue cette lecture.
Et on vient d'entendre donc la chanson Menfi, qui était donc une chanson emblématique de la contestation de la colonisation de l'Algérie par la France. Donc c'est un vieux chant d'exil kabyle qui a été composé au lendemain de l'insurrection de 1871 et de la condamnation à la déportation en Kanaky de la plupart des meneurs de cette révolte. Donc elle a été interprétée par le groupe 1, 2, 3 Soleil, composé de Rachid Taha, Fodel et Khaled. Donc je vais continuer ma lecture avec donc, le chapitre 2, ici la voix de l'Algérie, toujours de l'an 5 de la révolution algérienne de Frantz Fanon. Juste pour information, le livre, il y a 5 chapitres. Le premier, c'est sur la question du voile et du dévoilement, enfin en tout cas de l'imposition du dévoilement par l'État colonial français. Le deuxième, du coup, ça sera sur la radio. La troisième, c'est sur la transformation des relations familiales par la lutte de libération décoloniale. Le quatrième chapitre concerne la question du rapport au médecin dans le contexte colonial, qui est très intéressant et à mettre en lien avec l'intervention de la psychologue avant. Et le dernier, c'est sur la minorité européenne d'Algérie. Voilà. Donc j'espère en tout cas que mes lectures vous donneront peut-être envie de le lire en entier. Donc c'est parti. Nous vous proposons d'étudier dans ce chapitre les attitudes nouvelles adoptées par le peuple algérien au cours de la lutte de libération à l'égard d'un instrument technique précis, le poste de radio. Nous verrons alors que derrière ces nouvelles conduites, c'est la situation coloniale dans son ensemble qui est mise en question. Nous aurons l'occasion de montrer tout au long de ce livre que la contestation du principe même de la domination étrangère entraîne des mutations essentielles dans la conscience du colonisé, dans la perception qu'il a du colonisateur, dans sa situation d'homme dans le monde. Radio Alger, poste émetteur français installé en Algérie depuis des dizaines d'années, réédition ou écho de la radiodiffusion française nationale installée à Paris, exprime avant tout la société coloniale et ses valeurs. Les Européens d'Algérie, dans l'ensemble, possèdent un appareil de radio. Avant 1945, les postes de TSF sont dans la proportion de 95% entre les mains des Européens. À partir de cette analyse, des techniques d'approche purent être proposées. Entre autres, l'étagement des émissions en fonction de la famille prise comme totalité, visant les groupes des hommes, celui des femmes. Nous verrons, en décrivant les bouleversements survenus dans ce domaine, à l'occasion de la guerre nationale, ce qu'une telle explication sociologique contient d'artificiel. Dans les fermes, la radio rappelle aux colons la réalité d'un pouvoir et dispense par son existence même sécurité, sérénité. Radio Alger fonde le droit du colon et renforce sa certitude dans la continuité historique de la conquête, donc son exploitation agricole. La musique de Paris, les extraits de la presse métropolitaine, les crises gouvernementales françaises constituent une toile de fond cohérente où la société coloniale puise sa densité et sa justification. Radio Alger entretient l'érection de la culture de l'occupant, la départage de la non-culture, de la nature de l'occupé. Radio Alger, c'est la voix de la France en Algérie. Elle constitue le seul centre de référence au niveau de l'information. Radio Alger, c'est quotidiennement pour le colon une invitation à ne pas se métisser, à ne pas oublier le bon droit de sa culture. Les blédards de la colonisation, les aventuriers défricheurs le savent bien, qui ne cessent de répéter que, sans le pinard et la radio, nous nous serions déjà arabisés. Chez l'Algérien, par contre, la situation est totalement différente. Nous avons vu que la famille aisée hésite à acquérir un poste. Toutefois, il n'est pas constaté de résistance explicite, ordonnée et fondée, mais plutôt un désintérêt morne pour ce morceau de présence française. Dans les milieux ruraux et dans les régions éloignées des centres de colonisation, la situation est plus claire. Il y a ignorance du problème, ou plus précisément, le problème est à ce point éloigné des préoccupations quotidiennes de l'autochtone que l'on prévoit de façon très nette le scandale qu'il y aurait à demander à l'Algérien la raison pour laquelle il ne possède pas de poste de TSF. L'explication semble davantage se trouver dans le fait que Radio Alger est perçue par l'Algérien comme le monde colonial parlé. Avant la guerre, l'humour de l'Algérien lui avait fait définir Radio Alger comme « des Français qui parlent aux Français ». L'éveil du monde colonial et la libération progressive de peuples longtemps asservis situent l'Algérie dans un processus qui la dépasse en la fondant. L'apparition de pays arabes libérés revêt ici une importance exceptionnelle. La première introduction massive de postes de radio en Algérie est contemporaine de la création des stations émettrices nationales de Syrie, d'Égypte et du Liban. Ce sont les réactions de l'occupant qui apprennent à l'Algérien que quelque chose de grave et d'important se déroule dans le pays. L'Européen, par le triple réseau de la presse, de la radio et de ses déplacements, se fait une notion assez claire des dangers qui assiègent la société coloniale. L'Algérien qui déchiffre sur le visage de l'occupant la déroute montante du colonialisme ressent le besoin impérieux et vital d'être au courant. L'impression diffuse que quelque chose de fondamental se déroule est renforcée à la fois par la décision solennelle des patriotes qui expriment le vœu secret du peuple et incarnent la volonté, hier vide de contenu, d'exister en tant que nation, mais surtout par l'effritement objectif et appréciable à vue d'œil de la sérénité du colon. La lutte de libération, décelable dans la soudaine gentillesse du colon ou dans ses colères inattendues ou immotivées, met l'Algérien dans la nécessité de suivre pas à pas l'évolution de la confrontation. Dans cette période de mise en place des frontières du conflit, les Européens ont multiplié les erreurs. C'est ainsi que, dans les fermes, des colons rassemblent les ouvriers agricoles pour leur annoncer que telle bande de rebelles, inconnue d'ailleurs dans la région, a été décimée dans les Aurès ou en Kabylie. D'autres fois, on offre aux domestiques une bouteille de limonade ou une tranche de gâteau, car 3 ou 4 suspects viennent d'être exécutés à quelques kilomètres de la propriété. La puissance du message colonialiste, les systèmes mis en œuvre pour l'imposer et pour en faire la vérité, sont tels que la plupart du temps, le colonisé n'a que sa conviction intérieure, de plus en plus démesurée, à opposer aux offensives éminemment traumatisantes de la presse française et aux manifestations spectaculaires de son pouvoir militaire et policier. Quotidiennement confronté avec l'anéantissement des dernières bandes, le civil n'échappe au désespoir que par un acte de foi, par une croyance intraitable. Dans les petits centres de colonisation, les colons ne comprennent pas toujours la brutale et subite assurance du fellah. Et plusieurs fois, on les voit téléphoner à la ville la plus proche pour se faire confirmer que rien d'important ne s'est produit dans le pays. L'Européen s'aperçoit que la vie qu'il avait édifiée sur l'agonie du peuple colonisé perd de son assurance. Avant la rébellion, il y a la vie, le mouvement, l'existence du colon. Et en face, l'agonie continue du colonisé. Avant la rébellion, il y a la vérité du colon et le néant du colonisé. Depuis 1954, l'Européen constate qu'une autre vie s'est mise en branle, parallèlement à la sienne, et que dans la société algérienne, semble-t-il, les choses ne se répètent plus comme avant. L'Européen, après 1954, sait qu'on lui cache quelque chose. C'est la période où la vieille expression péjorative du « téléphone arabe » prend une signification presque scientifique. L'acquisition d'un poste de radio en Algérie en 1955 représente l'unique moyen d'obtenir de sources non françaises des nouvelles de la Révolution. Cette nécessité revêt un caractère impérieux lorsque le peuple apprend que du Caire, chaque jour, des Algériens dressent le bilan de la lutte de libération. Du Caire, de Syrie, de presque tous les pays arabes, refluent ainsi sur l'Algérie les grandes pages écrites dans les djebel par les frères, les parents, les amis. C'est à la fin de 1956 que se produit la véritable mutation. En effet, des tracts sont distribués à cette époque qui annoncent l'existence d'une voix de l'Algérie libre. Les heures d'écoute et les longueurs d'onde des émissions sont précisées. Cette voix qui parle des djebel, non située géographiquement, mais qui porte à toute l'Algérie le message grandiose de la Révolution, acquiert d'emblée une valeur essentielle. En moins de 20 jours, tous les stocks de postes de radio sont enlevés. Dans les souks, le commerce de postes de postes usagers fait son apparition. Les Algériens, apprentis chez les radioélectriciens européens, ouvrent de petits ateliers. De plus, le marchand doit répondre à des besoins originaux. La non-électrification des régions immenses en Algérie pose en effet aux consommateurs des problèmes précis. C'est ainsi que les postes à piles sont, à partir de 1956, les plus demandés sur le territoire algérien. En quelques semaines, plusieurs milliers de postes sont vendus aux Algériens. Postes individuels, postes acquis par des familles, des groupes de maisons, des douars, des mechtas. Les autorités françaises ne comprirent pas sur le moment l'importance exceptionnelle de cette modification du peuple algérien à l'égard du poste de radio. Les vieilles résistances intrafamiliales explosent. Et l'on peut voir dans un douar des groupes de familles où père, mère, fille, au coude à coude, scrutent l'écran du poste dans l'attente de la voix de l'Algérie. La famille algérienne, soudain indifférente à la vieille pudeur, à l'antique sociabilité stérilisante et dépourvue de fraternité, se découvre immunisée contre les plaisanteries grivoises ou les phrases amoureuses que l'opérateur ça et là accroche au passage. L'instrument technique, le poste de radio, perd presque magiquement, mais nous avons vu la progression concertée et dialectique des nouvelles nécessités nationales, ses caractères d'objet de l'ennemi. Le poste de radio ne fait plus partie de l'arsenal d'oppression culturelle de l'occupant. En faisant de la radio un moyen singulier de résister aux pressions psychologiques et militaires de plus en plus énormes de l'occupant, la société algérienne, par un mouvement autonome interne, décide d'assumer la technique nouvelle et d'être ainsi branchée sur les nouveaux systèmes de signalisation mis au monde par la Révolution. La voix de l'Algérie combattante aura, sur le plan de la cohésion, de la prise en masse du peuple, une importance capitale. Nous verrons que l'utilisation des langues arabes, kabyles et françaises, expression d'une conception non raciste comme le colonialisme a dû en convenir, eut l'avantage de développer et de renforcer l'unité du peuple, de faire exister le Djourdjoura au combat pour les Algériens patriotes de Batna ou de Nemours. Les actes épars s'insèrent dans une vaste épopée et les Kabyles ne sont plus ceux des montagnes, mais ils sont les frères qui, avec Wamran et Krim, mènent la vie dure aux troupes ennemies. Avoir son poste, c'est payer son impôt à la nation, acheter le droit d'entrée dans ce peuple rassemblé en vue de la lutte. Les autorités françaises, cependant, commencent à s'apercevoir de l'importance de ce progrès populaire dans la technique de l'information. Après quelques mois d'hésitation, les mesures légales apparaissent. La vente des radios est alors interdite, sous réserve de production d'un bon délivré par la sécurité militaire ou les services de police. La vente des postes à piles fait l'objet d'une interdiction absolue et les piles de rechange sont pratiquement retirées du marché. Les commerçants algériens ont alors l'occasion, en multipliant les fraudes, de faire acte de patriotisme, assurant ainsi avec une régularité exceptionnelle l'approvisionnement du peuple en piles de rechange. Ici se situe un phénomène suffisamment original pour qu'on y retienne notre attention. Les services français, technicisés à l'extrême et forts de l'expérience acquise à l'occasion de guerres modernes, rompues à la pratique de la guerre des ondes, eurent tôt fait de repérer les longueurs d'onde du poste émetteur. Les programmes furent alors systématiquement brouillés et progressivement, la voix de l'Algérie combattante devint inaudible. Une nouvelle forme de lutte était née. Des tracts conseillèrent aux Algériens de se tenir à l'écoute de façon permanente, deux ou trois heures durant. Évidemment, l'arrivée en Algérie par le chemin régulier de nouveaux postes et de nouvelles piles devient par la suite de plus en plus difficile. À partir de 1957, c'est de Tunisie et du Maroc, par le maquis, que l'approvisionnement se fera. L'introduction régulière de ces moyens d'établir le contact avec la voix officielle de la Révolution est devenue pour le peuple aussi importante que celle des armes ou des munitions pour l'armée nationale. Écouter la voix de l'Algérie combattante, ce n'est pas un souci d'écouter l'autre partie, mais exigence intérieure de faire corps avec la nation en lutte, de reprendre et d'assumer la nouvelle formation nationale, d'écouter et de redire la grandiose épopée accomplie là-haut, dans les rochers et sur les djebels. Chaque matin, l'Algérien communique le résultat de ses heures d'écoute. Chaque matin, il complète, à l'intention de son voisin ou de son camarade, les choses tue par la voix et répond aux questions insidieuses posées par la presse ennemie. Aux affirmations officielles de l'occupant, au bulletin fracassant de l'adversaire, il oppose des informations officiellement proclamées par le commandant de la Révolution. Dans le même ordre d'idées, il faut signaler l'expérience de l'audition en Kabylie. Groupés par dizaines et même par centaines autour d'un poste, les paysans écoutent religieusement la voix des Arabes. Rares sont ceux qui comprennent l'arabe littéraire utilisé dans ces émissions. Mais le visage est grave et le masque se durcit lorsque l'expression « istakral », indépendance, éclate dans le gourbi. Une voix arabe qui, quatre fois par heure, martèle « istakral » est suffisante à ce niveau d'effervescence de la conscience pour entretenir la foi dans la victoire. À partir de 1954, la radio prend des significations totalement nouvelles. La radio, le poste récepteur, perdent leur coefficient d'hostilité. Ils se dépouillent de leur caractère d'extranéité et s'organisent dans l'ordre cohérent de la nation en lutte. Dans les psychoses hallucinatoires, à partir de 1956, les voix radiophoniques deviennent protectrices, complices. Les insultes et les accusations disparaissent et font place aux paroles d'encouragement. La technique étrangère est digérée à l'occasion de la lutte nationale. Elle est devenue un instrument de combat pour le peuple et un organe protecteur contre l'anxiété. Toujours sur le plan de la communication, il faut signaler l'acquisition par la langue française de valeurs inédites. Effectivement, la langue française, langue d'occupation, véhicule de la puissance d'oppression, semblait condamnée pour l'éternité à juger péjorativement l'Algérien. Toute expression française ayant trait à l'Algérien était de contenu humiliant. Toute parole française entendue était un ordre, une menace ou une insulte. La rencontre de l'Algérien et de l'Européen est délimitée par ces trois sphères. Mais la diffusion en français des émissions de l'Algérie combattante va libérer la langue ennemie de ses significations historiques. Le même message transmis en trois langues différentes unifie l'expérience et lui donne dimension universelle. La langue française perd son caractère maudit, se révélant capable de transmettre également à l'intention de la nation les messages de vérité que cette dernière attend. Aussi paradoxal que cela paraisse, c'est la révolution algérienne, c'est la lutte du peuple algérien qui facilite la diffusion de la langue française dans la nation. Les autorités d'occupation n'ont pas davantage mesuré l'importance de l'attitude nouvelle de l'Algérien en face de la langue française. S'exprimer en français, comprendre le français, ce n'est plus assimilable à une trahison ou à une identification appauvrissante avec l'occupant. Car utilisé par la voix des combattants, transitant de façon prégnante le message de la Révolution, la langue française devient aussi un instrument de libération. Alors qu'en psychopathologie, toute voix française dans un délire exprime le rejet, la condamnation et l'opprobre, on voit s'amorcer avec la lutte de libération un travail capital d'exorcisme de la langue française. On assiste à une quasi prise en charge par l'indigène de la langue de l'occupant. On a vu qu'avec la création de la voix de l'Algérie combattante, les postes de radio se multiplient dans des proportions extraordinaires. Avant 1954, l'instrument de réception, la technique radiophonique de communication de la pensée à distance, n'est pas seulement un objet neutre en Algérie. Elle est perçue comme un courroie de transmission du pouvoir colonialiste. Elle est comme un moyen dont dispose l'occupant pour imprégner physiquement la nation. Le poste est investi par le peuple de signification péjorative. Avant 1954, tourner le bouton de la radio, c'est donner asile à la parole de l'occupant. C'est permettre au langage du colonisateur de s'infiltrer au cœur même de la maison, dernier des suprêmes bastions de l'esprit national. Avant 1954, un poste de radio dans une maison algérienne, c'est la marque d'une européanisation en cours, d'une disponibilité. C'est l'ouverture consciente à l'influence du dominateur, à sa pression. C'est la décision de donner voix à l'occupant. Avoir un poste, c'est accepter d'être assiégé de l'intérieur par le colonisateur. C'est manifester qu'on choisit la cohabitation dans le cadre colonial. C'est, à n'en pas douter, rendre les armes à l'occupant. Nous avons évoqué les raisons par lesquelles le peuple expliquait ses réticences à l'égard de la radio, le souci de maintenir intactes les formes traditionnelles de sociabilité et la hiérarchie de la famille fut alors la principale justification. Oh, on ignore toujours sur quel programme on va tomber, on y dit n'importe quoi. Et quelquefois, un argument religieux d'allure péremptoire fait son apparition. C'est une radio d'infidèles. Nous avons vu que de telles rationalisations ne sont que des mécanismes créés de toutes pièces pour justifier le rejet de la présence de l'occupant. Avec la création d'une voix de l'Algérie combattante, l'Algérien se trouve dans l'obligation vitale d'écouter le message, de l'assimiler et bientôt de l'assumer. Acheter un poste, se mettre à genoux, la tête contre l'écran, ça n'est déjà plus vouloir des informations au niveau de la formidable, expérience qui se déroule dans le pays, c'est ouïr les premières paroles de la nation. Puisque la nouvelle Algérie En Marche décide de se raconter et de dire, le poste de radio devient indispensable. C'est lui qui permet à la voix de s'enraciner dans les villages et sur les collines. Avoir un poste de radio, c'est solennellement entrer en guerre. Avant 1954, la société autochtone dans l'ensemble rejette les postes de radio, se ferme à l'évolution technique des méthodes d'information. La société algérienne, dans son ensemble, n'accepte pas la radiodiffusion. Il n'y a pas d'attitude réceptrice devant l'importation organisée par l'occupant. Dans la situation coloniale, le poste ne répond à aucun besoin du peuple algérien. Le poste est au contraire perçu, nous l'avons vu, comme moyen qu'a l'ennemi de poursuivre, sans éveiller l'attention, son travail de dépersonnalisation. La lutte nationale, la création de Radio Algérie Libre, provoque au sein du peuple une mutation fondamentale. La radio s'introduit en force et non par implantation progressive. Il n'y a pas accumulation de gains locaux et addition de régions atteintes peu à peu. On assiste à un bouleversement de fond en comble des moyens de perception. Du monde même de la perception. En Algérie, il n'y a jamais eu, à vrai dire, à l'égard de la radio, de conduite réceptrice, d'adhésion et d'acceptation. En tant que processus mental, on assiste à partir de 1956 à une quasi-invention de la technique. La voix de l'Algérie, créée de rien, fait exister la nation et délivre à chaque citoyen un nouveau statut, le lui fait savoir explicitement. L'Algérie a connu une expérience privilégiée. Pendant plusieurs années, la radio aura été pour beaucoup l'un des moyens de dire non à l'occupation et de croire à la libération. L'identification de la voix de la révolution avec la vérité fondamentale de la nation a ouvert des horizons illimités.
Merci, Suzanne, pour cette lecture. Tu peux juste redire le titre peut-être pour les auditeuristes.
Donc c'était des extraits de l'an 5 de la Révolution algérienne de Frantz Fanon.
Merci pour cette lecture. Et on est toujours en direct sur les ondes de Radio Saint-Ferréol dans cette nuit décoloniale. Et ben on continue.
Décolonisons les ondes. Reste avec nous jusqu'au bout de la nuit.
Dodo, tiba. Sœur, sœur, maman avec son papa. Dodo, tibaba. Sœur, sœur, maman avec son papa.
Re-salut, la nuit des mots décoloniales. C'est encore Mumil à l'antenne. Et ce soir, je vous propose de plonger avec moi dans l'histoire de la Réunion à travers la lecture de contes formidables. Alors dans ces contes, il est question d'histoire, de vécu et de mémoire d'esclaves gardés précieusement dans des mots qui transmettent des savoirs sur des plantes magiques. Il est question d'esclavage, de mort, de blessures et de très très grandes injustices. Il est aussi question de lutte, de résistance et de dignité héritée de nos ancêtres malgaches. Alors, ça peut te secouer, ça peut te faire pleurer, et c'est OK. Un conte, une plante, une histoire coloniale de La Réunion, dans Flore Mazigador, histoire et conte créole des plantes magiques de La Réunion, par Céline Aonienne, TM. Patchouli. Plante aromatique, le patchouli possède de larges feuilles veloutées, dentées et parfumées. Une fois sèche, elle dégage une odeur très puissante de terre boisée et de camphre. Dans la cour de récréation, Tiluka raconte l'aventure du Pissonia à ses camarades. Glissant une oreille dans la conversation, l'instituteur Zoreille persifle. Un Zoreille, c'est une personne originaire de la France continentale. « Ta grand-mère fait de la magie ? N'importe quoi, superstition et baliverne, voilà tout !» Le soir même, Mémé entend dans son rêve les paroles de l'instituteur. À minuit, elle file dans le jardin. Sur l'autel de Sainte-Expédite, elle dépose 3 fleurs de conflore rouge, comme la lave du volcan, puis elle allume de l'encens. Sainte-Expédite. La fumée s'élève des bâtons de patchouli. Un parfum de terre de forêt emplit l'air. Et en pyjama, Tilou apparaît. Mémé, en 1829, ce sont les engagés malbars qui apportèrent le patchouli sur l'île Bourbon. Puis la plante fut envoyée au royaume de France et de Navarre en cadeau au roi Charles X. La fillette bâille. Le sommeil caresse ses paupières. Grand-mère la raccompagne chez elle. « Maintenant, il faut dormir !» murmure Mémé. Tilou la retire dans ses bras. « Mémé, raconte-moi une histoire. » Il y a bien longtemps, vivait un soldat romain du nom d'Expédite. Comme tous les Romains, il priait plusieurs dieux et effectuait plusieurs rites. Un jour, il décida de se convertir au christianisme. Un corbeau se posa sur son épaule afin de le faire hésiter. « Cra, 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 convertis-toi demain. Aujourd'hui, profite de ta jeunesse et de ta beauté pour t'amuser. Tu le mérites. » « Mémé, en latin, cra signifie demain, » précise Tilou, première de la classe, d'une voix endormie. Expédite lui répondit. « Pourquoi attendre demain? Je veux me convertir aujourd'hui. » Depuis, Sainte-Expédite exauce rapidement les vœux formulés la nuit. Il n'attend pas le lendemain pour les réaliser. Il les accomplit tout de suite. Le lendemain, il est 8 heures quand le maître d'école arrive en classe. Debout sur l'estrade, il ouvre la bouche. « Zordi, nous avoir ôté !» Que se passe-t-il? Les mots ont jailli de sa bouche en créole. « Totoche, quand ça l'arrive à moi ?» Les yeux de M. Marcel sont exorbités. « Bécali, catibouette, languette !» M. Marcel lance des insultes en créole. « Les enfants sont-ils là ?» Rouge de honte, l'instituteur sort précipitamment de la classe. Tiluka grimpe sur le bureau du maître et déclare à ses camarades le poing levé. « La magie de Mémé a puni M. Marcel. Pour rompre la malédiction, il faut respecter la culture créole. » Tilou s'empare du carnet à spirale et Tiluka et note en première page « Il faut respecter la culture créole ». Tout le monde le sait comme ça. Il en reste encore 2. Cassie. Une espèce envahissante, cet arbuste épineux possède des feuilles qui s'ouvrent à l'aube et se ferme au crépuscule. Ses fleurs odorantes ressemblent à des pompons jaunes. Ses fruits sont des gousses brunes contenant des graines qui servent à fabriquer des colliers. Aujourd'hui, il pleut des cordes. Mémé dit que l'arrosoir du bon Dieu est certainement percé. Tiluka ne s'en soucie guère. À la sortie des classes, il saute dans les flaques d'eau, patauge dans les rigoles et chante. La plie tombée, haricots posés, Madame pété, messier senti. À l'abri, sous le feuillage d'un cassis, Tilou lance à son ami : cesse de faire le pitre ! Tiluka ne l'écoute pas. Il joue sous la pluie, cartable sur la tête, shirt trempé. À la maison, Mémé le sermonne : tu aurais pu attraper froid, hein ? Maintenant file, c'est l'heure de faire tes devoirs. Dans sa chambre, Tiluka vide son cartable. Ôté, la pluie a abîmé le poème distribué par l'instituteur. Comme les vers de Lecomte de Lisle sont presque illisibles, Tiluka décide de les copier sur une page vierge. Et hélas, son écriture ressemble à des crottes de bique. Oh, le maître remarquera que c'est pas la même feuille. Alors l'écolier se remet à la tâche. Il recopie une nouvelle fois le poème. Cette fois-ci, les phrases qu'il a tracées ressemblent à des crottes de mouche. Oh, ce n'est toujours pas ressemblant. Le maître n'est pas bête, il s'apercevra de la supercherie. Persévérant, Tiluka recopie une nouvelle fois. Voilà, cette fois-ci, son écriture est identique à celle du maître. Super, l'illusion est parfaite. La nuit tombée, et Tiluka n'a pas vu le temps de filer. Horreur, il n'a pas eu le temps d'apprendre le funker. Le lendemain, afin que l'instituteur ne lui demande pas de réciter le poème, Tiluka glisse dans sa poche 7 graines de cassis. Dans la cour de récréation, il les montre à Tilou. Mémé dit qu'un jour, cette espèce invasive envahira nos savanes et nos ravines. La fillette saisit une graine pour embêter son ami. « Ôtez, rends-la-moi. Il me faut 7 graines dans ma poche pour ne pas être interrogé. » rouspète Tiluka. Tilou ne l'entend pas. La cloche a sonné. Elle est déjà en rang, prête à rentrer en classe. Dans le fond de la salle, Tiluka serre fort dans sa poche les 6 graines amulettes. Remarquant la nervosité de l'écolier, Maître Marcel ordonne « Tiluka, au tableau !» Hésitant, Tiluka monte sur l'estrade. Il ouvre la bouche et soudain, les vers du poème fusent d'un coup. « Si l'aurore toujours de ses perles arrose, canne, giroflier et maïs onduleux, si le vent de la mer qui monte au pitôme bleu fait des bambous géants bruire dans l'herbe rose, à force de copier, de recopier et de re-recopier les vers, le poème s'est gravé tout seul dans la mémoire de Tiluka. À la sortie des classes, c'est le déluge. Des trompes d'eau s'abattent sur le petit garçon, mais il ne s'en soucie guère. Heureux d'avoir eu un 10 sur 10, il chante sous la pluie. La pluie tombée, haricots poussés, Madame pété, messier senti.
J'ai un petit problème. Voilà. Et le dernier conte pour ce soir.
Mafate en bois. Espèce indigène, le mafate en bois est une liane qui utilise ses jeunes rameaux pour s'agripper à un arbre haut. Ses feuilles sont dépourvues de poils. Elles sont glabres. Attention, les fruits et les racines de cette plante sont toxiques. Dans le jardin, les lianes de mafate en bois grimpent sur les arbres, s'enroulent autour des branches et fleurissent à l'ombre de la canopée. Nos ancêtres malgaches ont appelé cette plante mafate en bois. Mafate signifie celui qui tue et en bois, chien. Les alizés font trembler les frondaisons des arbres qui frissonnent comme si un fantôme soufflait sur la surface brillante des feuilles. Le regard de Mémé se brouille. Son dos se voûte. Son esprit vagabonde dans le passé. Fuis ! Françoise Mitef, les noirs de renard sont à tête rousse. Ils ont lâché les chiens à la poursuite de ta petite frimousse. Apeuré, Tiluka se cache derrière le feuillage touffu du mafate en bois. Françoise a 9 ans tout rond. Elle incendie, à l'aide d'un tison, le hangar à provision. Puis, profitant de la confusion, elle s'enfuit de la maison et du maître Bourbon. Son rêve est de rejoindre mafate, le sorcier marron. Mémé cueille quelques feuilles. Mafate en bois, est une liane poison qui a le pouvoir de rendre les chiens capons. Le corps de Mémé se recroqueville. Dans un souffle rauque, elle déclame « Je marronne, le cabaye déchiré, la mauresque rapiécée, le rouge aux pieds, la poitrine opérissée, je marronne. » Tiluka comprend que l'esprit de Mémé s'est emmêlé dans les mailles du passé. L'enfant serre grand-mère très fort entre ses deux petits bras. Sa tête se blottit contre son cœur. Il entend les vagues qui s'écrasent contre la falaise. Ce câlin surprise fait revenir Mémé dans le temps présent. Caressant les cheveux de son petit-fils, elle lui dit « Les anciens appelaient le grand sorcier marron Mafak, celui qui guérit, ou Mafat, celui qui tue. Ce double nom révèle qu'il utilisait les plantes soit pour soigner, soit pour empoisonner. Le jardin se pare de couleurs crépusculaires. Les lianes de Mafat en bois rougissent. Tiluka ouvre son carnet à spirale et écrit « Le nom des plantes révèle leur pouvoir magique. »
Resa Kumaranda.